Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, le débat des grandes voix avec ce soir Michel Cotta donc et Catherine Ney. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir Julien.
C'est une annonce qui a fait son petit effet aujourd'hui dans la haute fonction publique. Des places seront désormais réservées aux candidats issus des milieux modestes. C'est ce qu'a indiqué la ministre Amélie de Montchalin. Et cela, dès 2021, il y aura donc des voies d'accès dédiées aux personnes issues de milieux modestes. Ça concernera l'ENA, la direction des hôpitaux, des postes d'administrateurs territoriaux, des commissaires, des magistrats. L'ascenseur social, a-t-elle dit, ne fonctionne plus, Catherine Ney.
Oui, elle prend pour exemple la promotion de l'ENA 2019-2020 où 76% des élèves ont des parents qui exercent une profession dite supérieure et qu'il y a seulement 1% d'enfants ouvriers. C'est moins qu'en 2006 où il y avait 4%.
Oui.
Donc il y a comme ça
1% d'enfants de milieux ouvriers à l'ENA.
À l'ENA, voilà.
Voilà, tout est dit. Tout
est dit. Bon, mais que peut-on faire pour changer cet état de choses ? Alors, c'est vrai que
Parce que c'est une politique de quota, en quelque sorte. Hein.
Oui, mais oui, enfin, on n'aime pas trop ce mot, mais la discrimination sociale, est-ce qu'elle peut être combattue par la suppression de la méritocratie républicaine ?
C'est-à-dire oui. que... Mais la méritocratie ne fonctionne plus, c'est quand même ça
l'état
de fait.
Oui, mais est-ce que vous allez, par exemple, dans un concours à l'ENA, supprimer, comme il en est question, l'épreuve de dissertation ? Dans lequel un élève peut montrer évidemment tout son raisonnement, sa capacité d'imaginer. Mmh. Et je veux dire, c'est une épreuve à bien maîtriser la langue, c'est très important. Je veux dire, c'est une question qui se pose.
Oui, mais globalement, le programme et les oraux resteront les mêmes, puisque l'objectif, c'est que sur 700 élèves dans ces prépas, on monte, dit la ministre, à 2000. Avec donc des élèves issus de milieux modestes.
L'expérience a été tentée une première fois à Sciences Po.
Oui, depuis 2000.
Il y a longtemps, il se trouve que j'y étais associée avec le directeur Richard Descoings. Et que c'est moi qui fais passer les premiers examens.
C'est vous.
Enfin, nous étions un ou deux à faire passer les premiers examens, justement, de nouveaux entrants. Alors, il fallait voir que depuis la seconde, ces nouveaux entrants avaient fait savoir qu'ils voulaient faire Sciences Po dans leurs différents lycées. Donc il y avait des lycées quand même tout à fait... Et que c'était très très dur pour eux. Parce que quand ils disaient, quand ils étaient, vous voyez, en banlieue et qu'ils disaient on voudrait aller dans ce lycée parce qu'on veut faire Sciences Po, tout le monde se foutait d'eux. Bon. Mais c'était des élèves qui travaillaient mais comme des fous, comme des brutes, parce qu'ils avaient, je peux vous dire, un moteur par rapport aux fils de famille qui arrivaient et qui se disaient on fait Sciences Po comme ça. Et le premier concours, à notre grande stupeur, à Richard Descoings et à tous ceux qui l'accompagnaient, c'était de voir que leur niveau était tout à fait, si je dis comparable, même parfois supérieur.
Parfois supérieur.
Et ce qu'on avait remarqué de plus formidable, c'est que alors que les jeunes gens de milieu aisé entraient comme ça, passaient leur concours, il y avait en revanche tous les professeurs de tous les jeunes qui venaient de seconde et des premières, qui était au bistrot du coin, en train d'attendre. Pour connaître le résultat. Pour connaître si ça avait marché, etc.
Ouais.
Il y avait une mobilisation autour de...
Alors, donc vous dites ça marche,
écoutez, à Sciences Po, ça a très bien marché. Les élèves faisaient une tête pas possible pour le premier concours. Ils disaient comment, nous... Et bien, c'est quand même ça la méritocratie républicaine. Ouais. À condition... Qu'on ne change pas les concours.
Je rebondis sur ce que disait Catherine Ney. L'idée, ça n'est pas de niveler par le bas, soyons bien d'accord. L'idée, c'est simplement de faire rentrer dans la tête d'enfants qui viennent de milieux modestes et qui ont les compétences pour faire ces grandes écoles, leur dire ces écoles sont aussi pour vous. Ça n'est pas réservé aux autres. Parce que c'est souvent quelque chose qui est ressenti comme tel. Les parents ou les enfants qui ont envie de faire ces grandes écoles disent « Non, c'est pas pour moi, ça c'est pour les fils de bonne famille, c'est à Paris, c'est à Bordeaux. »
Vous avez raison,
Catherine Ney. Non, mais vous voyez bien que, dans le fond, l'inégalité, elle se creuse dès l'école, dès la formation. Donc, il y a des inégalités dans les classes. Donc, pour inciter des jeunes à venir, il faudra faire une sélection parmi ces jeunes dans des classes. Et parmi les... Donc, il y a déjà une sélection... dans ces écoles, qui sera obligatoire. Parce que vous pouvez
les lycées,
par
exemple. Par
les lycées.
J'ai utilisé le mot quota tout à l'heure, un peu...
Merci bien,
Il y aura une... en clin d'œil à Michel, mais pas seulement.
Mais je pense que cette sélection...
Qui était un peu abusif, Catherine Ney, parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas de leur réserver des places, c'est plutôt d'ouvrir le champ des possibles pour ces jeunes-là.
Et moi, je crois qu'il y a une émulation, si on sait que dans certains lycées, on est venu chercher des jeunes parce qu'ils savaient bien travailler et que donc ils ont une capacité à s'émanciper ça donnera des idées aux autres. C'est-à-dire qu'il faut que dès l'école, on dise attention, si vous travaillez bien, vous aurez telle capacité à être présenté à des concours qui jusqu'ici vous étaient interdits parce que vous en aviez peur ou que socialement vous vous sentiez inapte à les présenter.
Donc c'est ça aussi
présenter.
La méritocratie, c'est d'aller voir un petit gamin et de lui dire toi, tu ne le sais pas encore, mais tu es capable.
Voilà.
Tu es capable
de rentrer. De lui ouvrir la voie parce que ce serait si on lui ouvrait la voie après son bac, c'est trop tard. C'est l'ouvrir sa voie avant, qu'il prenne ses dispositions avant. Et moi, j'avais remarqué que dans la promotion qui s'était inscrite, les parents n'étaient pas tellement pour. Les parents avaient peur pour leurs enfants. Parce qu'ils étaient généralement à Garches ou à Meaux. Et que quand leur gosse leur avait dit moi je veux entrer dans ce lycée pour faire Sciences Po, les parents avaient dit est-ce que c'est vraiment utile, ça va être terrible. Et c'était les enfants qui manifestaient.
Donc il y a un conditionnement social terrible dans ce que vous dites.
Ça veut dire
que les parents avaient intégré que les enfants ne pourraient pas faire ces grandes écoles.
Donc, mais en disant c'est pas notre monde.
C'est
pas notre milieu.
Ça explique aussi qu'ils étaient d'autant mieux, d'autant meilleurs. C'est vrai qu'ils étaient vraiment...
Est-ce que, ça sera ma dernière question, Michel Cotta, est-ce que vous avez revu certains des enfants qui sont rentrés à Sciences Po par ce biais-là des années après?
Oui.
Et alors?
Ils ont dit que la première année avait été atroce.
Oui.
Mais vous savez, elle était aussi atroce pour moi quand je suis arrivée de ma province. Alors, elle a dit que la première année a été difficile, mais qu'après, les filles se sont intégrées très facilement.
Plus facilement que les garçons.
C'est plus dur.
De toute façon, les filles, elles sont toujours plus travailleuses que les garçons. Tout le monde le sait bien.
Ce n'est pas seulement une question de travail, c'est une question d'habitude. Il y a sur le milieu, il faut prendre, prendre ses marques.
Une intelligence de la situation.
Et les garçons ont toujours plus de mal à oublier leurs marques et en prendre de nouvelles. Ce n'est pas le cas des filles.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le débat des grandes voix toujours ce soir, Michel Cotta et Catherine Ney à 18h41. On est toujours en direct évidemment dans le studio d'Europe Soir. Et après les grandes écoles et la haute fonction publique, on évoque maintenant ce débat qui suscite la polémique au sein de la majorité sur l'allongement du délai pour avorter. Le texte a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'étendre de 12 à 14 semaines le délai légal pour accéder à l'IVG, avec aussi la suppression de la clause de conscience, c'est important, des médecins qui ne veulent pas les pratiquer. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter la députée LREM de l'Isère, Émilie Chalas.
Chacun y va dans cet hémicycle de son « c'est un sujet grave, c'est un choix douloureux, une détresse ». Ça n'est pas le cas pour toutes les femmes que j'ai rencontrées et qui ont choisi d'avorter, dont je fais partie. Elles le font en conscience, en liberté, et parfois coupable de ne pas se sentir en situation de drame. Arrêtons de culpabiliser les femmes qui avortent. Nous avons ce droit, arrêtons de ne pas l'assumer librement.
Voilà, alors pourquoi elle dit ça, cette députée de la majorité? Parce que la gauche y est favorable à cet allongement de 12 à 14 semaines du droit à avorter. Les députés de la majorité, on vient de l'entendre aussi, mais le gouvernement lui temporise et semble hostile, à l'image de la prise de parole d'Olivier Véran aujourd'hui. Pourquoi, Catherine Ney, cette réticence du gouvernement sur cette question qui paraît ne pas poser de problème?
Peut-être pour des raisons éthiques, tout simplement. Je crois que Emmanuel Macron, ça pose un problème. Je veux dire, avorter à 14 semaines, une femme est enceinte de 3 mois et demi. Alors vous me direz que dans des pays, en Espagne, c'est 14 semaines, en Grande-Bretagne, 24 semaines, ce qui veut dire qu'on est enceinte de 6 mois et on peut avorter. Dans les Pays-Bas, c'est 22 mois. En Suède, c'est 18 mois. Alors évidemment, en France, 12 à 14 mois.
Semaines.
14 semaines, c'est dans la normale, disons presque européenne.
Oui.
Mais pour des raisons.
La raison pour laquelle les députés de la majorité et les députés qui ont voté pour veulent cet allongement du délai légal, c'est parce que depuis la légalisation de l'avortement, qu'on rappelle en France en 1975, dans les faits, il est aujourd'hui pour plein de femmes difficile d'avorter dans le délai légal, car il y a un manque de praticiens et car il y a eu la fermeture de centres IVG.
C'est
la raison pour laquelle ils veulent étendre
ce délai.
C'est vrai,
mais au fond, derrière ça, il y a un problème politique. Bien sûr, c'est 14 semaines au lieu de 12. Beaucoup de gens, éthiquement, disent que 14, c'est épouvantable. Enfin bon, en réalité, ça se passe ailleurs comme ça. Mais on voit bien que cette partie du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité, qui est issue du groupe de la majorité...
Oui. Ils sont 15, tout, ils sont des 15, dissidents.
Et il fait tout, ce groupe-là...
C'est une niche parlementaire.
Il fait tout pour paraître plus à gauche, pour être plus à gauche, et donc pour essayer de diviser le groupe de La République En Marche. Et c'est ce qui se passe. Ils ont fait cette proposition, et effectivement, il y a des gens à l'intérieur du groupe La République En Marche qui trouvent que 12 semaines, c'est suffisant.
Oui, mais quand même, les élus... Non, mais on constate Catherine. Que... Et ça, le gouvernement le découvre, et Jean Castex aussi, c'est que les élus marcheurs, dans leur grande majorité, ont un libéralisme sociétal qui est sûrement plus prononcé que la moyenne des électeurs d'Emmanuel Macron. Ça, c'est un fait. Et les femmes... ou qui sont pas majoritaires, mais qui sont à égalité avec les hommes, mènent, là, c'est elles qui mènent le combat, parce qu'elles voient bien qu'il y a des régions en France où on ne peut pas avorter.
Mais c'est la question que j'allais vous poser, il y a quand même une réalité. Moi, j'ai vu qu'en France, chaque année, aujourd'hui, il y a entre 3000 et 4000 femmes hors délai, c'est-à-dire qui dépassent ce délai des 12 semaines, qui sont forcées de partir avorter à l'étranger, c'est ce que raconte un
rapport. Mais il y a 232 000 avortements par an en France. En ce
cette année, il y a eu 232. Au-delà de 14 semaines, peut-être que ce serait le même problème. C'est des jeunes femmes qui s'y prennent trop tard, qui essayent de se cacher la vérité ou de cacher la vérité aux autres.
Il y a quand même un problème d'accès à l'IVG. J'ai fait une émission il n'y a pas très longtemps sur le service public sur France 2. Il y a quand même, c'est vrai, dans certains territoires, un problème d'accès
à l'IVG.
Le problème aussi, c'est que quand on est passé en 2001 de 10 à 12 semaines le délai, eh bien là, les médecins ont... ont arrêté de faire des avortements. Ils ne voulaient pas. Alors, est-ce que là, je veux dire, on peut les obliger ? Alors, c'est vrai que dans chaque hôpital...
Pas tous les médecins, mais le Conseil de l'Ordre, est réputé être plutôt conservateur.
Oui. Mais enfin, il y avait beaucoup de médecins qui ne voulaient pas. Donc, est-ce qu'on peut obliger, dans un hôpital, un médecin à faire un avortement s'il ne veut pas le faire ? Est-ce qu'on peut donner ce rôle ?
Ce sera le cas demain, Catherine, parce que dans le texte qui a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée, il y a aussi la suppression de la clause de conscience des médecins qui ne veulent pas les pratiquer. C'est quand même quelque chose de particulier.
Oui, moi je trouve ça très compliqué. Franchement, la liberté de conscience d'un médecin face à ça, la loi Veil l'a prévoyé.
Oui.
Et je ne crois pas que ce soit à cause de ça que beaucoup de femmes aient du mal à trouver de quoi se faire avorter. Je crois que c'est pas ça. C'est vraiment pas la liberté des médecins. C'est peut-être que certains ne veulent pas le faire. Et moi, je trouve ça tout à fait normal, après tout. Souvent, c'est bien plus parce qu'elles sont en retard que parce qu'elles trouvent pas de médecins.
Oui.
Que ça se passe.
Voilà. Mais sur un territoire très rural, ça peut poser question quand il n'y a qu'un médecin qui ne veut pas avorter.
Et puis quand on n'ose pas le dire à ses parents, etc.
Si le médecin ne veut pas avorter, on fait comment ?
J'entends bien, mais quand même, la liberté de conscience, moi, de ce point de vue-là, c'est idiot, on est peut-être un peu rétrograde, mais la liberté de conscience, en tout cas, moi, les 14 semaines, ça me va, mais la liberté de conscience...
Bon, on continue d'en parler dans quelques secondes, 18h47, à tout de suite avec Michel Cotta et Catherine Ney.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h49, on est toujours ensemble pour le débat des grandes voix avec Michel Cotta et Catherine Ney. Ce soir, on évoque notamment ce débat qui a suscité la polémique au sein de la majorité sur l'allongement du délai pour avorter. Le texte a été adopté. Étendre de 12 à 14 semaines le délai légal pour accéder à l'IVG. Il y a une forte opposition chez certains députés, à l'image de cette députée Agnès Thil, plutôt anti-avortement, mais qui affirme et qui défend cette position. Écoutez-la.
Avorter tardivement à plus de 3 mois de grossesse est très violent pour les femmes, d'autant sur le plan médical, l'IVG est rendu plus complexe compte tenu de la plus grande taille du fœtus. D'où vient la limite de 14 semaines qui est avancée au lieu de 12 ? Pourquoi pas 16 jusqu'à 19 ? À 14 semaines, le bébé mesure presque 14 cm pour près de 100 grammes. Les proportions de son corps s'harmonisent, le squelette se solidifie, l'ossature se forme. Il peut plier ses doigts, serrer les poings ou sucer son pouce.
Bien, c'est un argumentaire qu'on a déjà entendu au moment de la loi Veil. Mais est-ce qu'il y a un point de bascule entre 12 et 14 semaines ?
Oui,
c'est ce
qui met en avant cette députée. Il y a, je crois, un point de bascule qui est que la tête est davantage ossifiée. Donc, il faut procéder autrement.
Mais les Espagnols, pays très conservateurs, 14 semaines,
bien
on le disait
14,
tout à l'heure.
Et les Pays-Bas, encore 22 semaines. Ils sont moins conservateurs.
Et la Grande-Bretagne, 24 semaines.
Donc, finalement, ça, c'est un mauvais argument. Parce qu'on agit autrement, on ne peut pas faire de la même façon. Je ne suis pas médecin, mais encore moins avorteuse, mais on ne peut pas agir de la même façon, mais on peut le faire à 14 semaines, parce que les arguments qu'on entend là, c'est ce qu'on entendait développer par la droite au moment où Simone Veil soumettait sa loi. Je rappelle que la loi Simone Veil a été votée par la gauche.
Oui,
mais elle disait aussi que ça ne devait pas être un moyen de contraception. l'avortement. Oui. Là, elle le disait, elle le redisait.
Je pense que tout le monde est d'accord.
Comment
c'est pas, c'est
oui, pas tout le monde est d'accord, mais on voit bien aujourd'hui que il y a 40 fois plus d'avortements chez les femmes qui sont en difficulté économique,
oui,
qui ont peur de l'avenir, qui se, sont, qui se disent je ne pourrais pas assumer un enfant toute seule ou un nouvel enfant. Donc, c'est pour des raisons aussi économiques qu'on peut comprendre et de peur de l'avenir.
Avant, on les laissait, on abandonnait les enfants dans les églises. Maintenant, effectivement, les femmes qui savent qu'ils ne peuvent
pas,
qu'elles ne peuvent pas.
Mais vous, votre conviction, Michel Cotta, 14 semaines, 12 semaines, ça change quelque chose?
Non, pour moi, non. Pour moi, non. Je trouve que le terme de 14 semaines n'est pas du tout impossible et que c'est sans doute pour l'Europe le plus équilibré.
Oui, parce que le droit à l'IVG, c'est d'abord le droit pour les femmes, on le rappelle, à disposer de leur corps. C'est ça, l'essence même de la loi Veil de 75.
C'est ça, mais c'est vrai que Catherine a raison de dire que pour Simone Veil, ça n'empêchait pas qu'on fasse, qu'on fasse appel au planning familial. Vous savez, c'est idiot, c'est un mot qui a disparu.
Oui.
Mais c'était, on prenait des pilules pour éviter. Oui. C'était quand même mieux, plus facile qu'un avortement. C'est ça qu'on veut dire, c'est pas automatiquement par ce seul biais-là qu'on peut mettre fin. On peut aussi ne pas donner, prendre des pilules pour ne pas donner naissance à quelqu'un.
C'est un combat que vous avez connu l'une et l'autre.
Oui, c'est notre combat. On trouvait ça très bien. On trouvait que c'était après la pilule qui a été la première. C'est la première fois que pouvaient les femmes, c'était un enfant quand je veux avec la pilule. Tandis que l'avortement, c'était un autre débat. C'était après l'après-pilule. Et donc, la pilule avait beaucoup gêné les hommes parce qu'ils sentaient qu'ils le perdaient la maîtrise. Oui. Les femmes leur échappaient. Oui. L'avortement, évidemment, ils trouvaient, la plupart étaient contre, mais ils voyaient ça sur une chose.
Catherine, si vous me permettez, il ne faut pas trop mélanger les deux, parce que ce n'est pas un moyen de contraception non plus, l'IVG.
Non, justement,
c'est justement.
J'aimerais savoir, moi, où en sont les statistiques, et je dois dire que je ne les ai pas, sur les femmes qui continuent à prendre des pilules. Je crains que beaucoup s'en abstiennent, justement, en se disant, après tout, s'il arrive quelque chose, on sera avorté. Et ça, franchement, c'est vrai que c'est mieux
de... Non, mais elles s'en abstiennent parce que beaucoup de pilules de la 4e et 5e génération ont été mal acceptées par les femmes. Donc, il y a une peur de prendre la pilule. Donc, il y a de moins en moins de jeunes femmes qui prennent la contraception parce qu'elles ont peur de grossir, parce qu'elles ont peur d'être malades, parce qu'on leur dit que le cancer du sein, peut-être, je veux dire, ça peut les... Il y a eu toute cette peur. Donc,
et puis, c'est un traumatisme terrible. Oui. Enfin, pardon, mais pour les femmes, d'avorter, ce n'est pas complètement anodin. Donc, de dire que c'est un subterfuge...
C'est aussi le poids que la société met autour. C'est aussi le poids que la société met autour, mon Dieu.
Oui, mais statistiquement, il y a 232 000 avortements par an en France et on s'aperçoit que les femmes qui avortent ont souvent déjà avorté une ou deux fois. C'est quand même statistiquement...
Ça veut dire que ce n'est pas une pression colossale, qu'elle la supporte en tout cas, cette pression colossale.
Alors le Collège national des gynécologues et des obstétriciens français y est opposé, lui, à cet allongement du délai du droit à l'IVG. Son président, le professeur Israël Nizan, dit qu'on ne peut pas compenser le manque d'accès à l'IVG par l'allongement du délai, car on accroît le risque du geste. Donc il ne parle pas du fœtus, évidemment, comme cette députée qu'on a entendue, mais il dit, après 14 semaines, il y a un risque. Il y a un risque pour la femme.
C'est peut-être plus violent, effectivement, au bout de 14 semaines, mais moi, franchement, je n'en suis pas sûre.
Moi, je crois que c'est plus violent pour les praticiens qui doivent le faire. Et ça augmente les réticences, voilà.
Bien, merci à toutes les deux. Michel, j'en profite pour saluer votre livre paru aujourd'hui. Ça s'appelle « Le brun et le rouge ». C'est avec Robert Namias, qu'on connaît bien ici à Europe 1, aux éditions Robert Laffont. C'est un roman de politique-fiction, c'est cela ?
Oui, politique-fiction.
Qui nous projette en 2025.
Voilà, les populismes ont gagné.
Les populismes ont gagné. C'est un peu Houellebecq, d'une certaine manière. Merci Michel Cotta. C'est donc à découvrir aux éditions Robert Laffont. Ça sort aujourd'hui dans toutes les meilleures librairies. Merci Catherine Ney.
Europe 1, Julien Bugier.
18h56, on se retrouve dans quelques secondes avec le débat du Club des idées. Comment faire face à l'explosion de la pauvreté post-Covid ? On en parle avec nos invités.